conversation scientifique par Étienne Klein. Aujourd'hui, comment penser l'innovation ? Il y a quelques mois, j'avais reçu dans ce même studio un jeune philosophe, Vincent Bontemps, et nous avions conversé tous les deux autour de la question suivante : de quoi l'innovation est-elle le nom ? Vincent Bontemps nous avait appris beaucoup de choses, notamment que le verbe innover, qui remonte au XIVe siècle, dérive d'innovare, qui signifie renouveler en bas latin. Que ce verbe fut d'abord utilisé par les juristes, dans le sens d'ajouter une clause dans un contrat déjà établi, avant de désigner plus généralement le fait d'introduire une nouveauté dans une chose préexistante. Il nous avait également raconté que c'est à Francis Bacon, l'inventeur de l'idée de progrès, que l'on doit le premier usage du mot innovation en rapport avec les sciences et les techniques. Dans un chapitre de ses Essais de morale et de politique, publié en 1625, Bacon démontrait la nécessité d'innover en dépit des risques que cela implique. Chaque médicament, écrit-il, est une innovation, et celui qui ne s'applique pas de nouveaux remèdes doit s'attendre à de nouveaux maux. Car le temps est le plus grand corrupteur, et s'il change les choses pour le pire, et que la sagesse et le conseil ne les modifient pas pour le meilleur, quelle sera la fin ? Fin de citation. En somme, le temps jouant contre nous, la recherche de l'innovation devient une nécessité si l'on veut contrecarrer ses effets corrupteurs. Cependant, l'innovation présentant toujours le risque d'aggraver les maux, Bacon recommandait d'avancer prudemment, presque insensiblement, au rythme du temps même. Mais peut-être vous en souvenez-vous, Vincent Bontemps avait également cité et analysé de nombreux autres penseurs, tels Machiavel, Marx ou encore Schumpeter. Aujourd'hui, je voudrais que nous reparlions de l'innovation, mais en partant d'un autre point de vue. Cette fois, j'ai invité non pas un philosophe, mais un économiste du même âge que Vincent Bontemps, la toute petite quarantaine, afin de voir comment les effets de discipline peuvent jouer dans l'appréciation des concepts au sein d'une même génération. Bonjour Nicolas Bouzou.
Bonjour.
Vous êtes économiste, comme je viens de le dire, vous avez 40 ans, et vous publiez un livre dont le titre m'a interpellé, comme on dit, « L'innovation sauvera le monde ». C'est si grave ? Le monde a besoin d'être sauvé ?
C'est peut-être l'innovation ou le concept d'innovation qui a besoin d'être sauvé. Moi, je suis très frappé par le fait que l'innovation aujourd'hui, auprès du grand public, elle a acquis une connotation qui est une connotation négative. Y compris quand on parle d'innovation dans des secteurs comme celui de la santé, dont on devrait penser de prime abord que ce sont des innovations qui vont apporter quelque chose de positif, des innovations qui vont être des progrès. Aujourd'hui, on voit bien qu'il y a une véritable crainte. Alors, il y a une double crainte, d'ailleurs, des opinions publiques quant à ces innovation, une crainte, je dirais, quasiment philosophique. À quoi elles servent ? Est-ce que vraiment elles vont servir le bien ? Et puis, une crainte économique. Est-ce que, finalement, ces innovations, elles vont permettre de créer de l'activité économique ? Et est-ce qu'elles, à la limite, elles ne vont même pas détruire de l'activité et détruire des emplois ? Donc, aujourd'hui, l'innovation, elle a cette connotation négative. C'est le symétrique, au fond, du 19e siècle. Au 19e siècle, l'innovation avait une connotation qui était sans doute exagérément positive. Et quand Marie Shelley écrit, moi ça me frappe beaucoup, elle écrit Frankenstein, elle commence à l'écrire en 1816, elle a même pas 20 ans, c'est d'ailleurs complètement incroyable. Et donc chacun évidemment connaît l'histoire de Frankenstein et la leçon très rapidement, c'est l'idée selon laquelle une innovation peut faire le mal.
Mais est-ce qu'elle emploie le mot innovation ?
Non, elle emploie bien évidemment le terme d'innovation, mais très honnêtement, je pense qu'on peut, sans commettre un anachronisme extrêmement grave...
Oui, mais il faut peut-être interroger le fait que le mot innovation est récent.
Oui.
Et que le mot progrès a disparu du discours public.
Oui, ça me frappe beaucoup d'ailleurs.
Et les mots sont pas synonymes, donc peut-être...
Absolument.
Peut-être que la rhétorique dans laquelle on insère l'innovation, qui dit l'état du présent est critique et c'est cet état qui doit nous conduire à innover sans quoi on disparaît, est une rhétorique beaucoup plus mortifère que celle de progrès qui laisse entendre qu'on travaille pour faire advenir un futur meilleur qu'on est capable de configurer à l'avance.
Oui, je suis entièrement d'accord avec vous, mais on peut penser en même temps que ce que vous soulignez, c'est-à-dire le fait que l'innovation a remplacé l'idée de progrès dans la terminologie courante, c'est l'effet aussi, et non pas simplement la cause du fait que l'innovation, aujourd'hui, a une connotation essentiellement négative. Et donc, pour répondre, pardonnez-moi, j'ai fait un discours un peu long pour répondre à votre question qui était « L'innovation sauvera le monde, est-ce que le monde est dans une situation tellement négative ?» Non, le monde n'est pas dans une situation aussi défavorable qu'on ne le dit. En revanche, ce que j'ai voulu faire, et c'est pour ça que ce titre a un côté, je comprends, qui peut paraître un petit peu provocateur, c'est que je veux tirer le bâton dans l'autre sens. C'est-à-dire que vous avez un bâton qui est courbé aujourd'hui dans un sens qui est celui du pessimisme, eu égard à cette question d'innovation. Voilà, j'essaie de le tirer dans l'autre sens, du côté de l'optimisme, pour qu'in fine, ce bâton redevienne droit.
Mais alors, pour un économiste, qu'est-ce que c'est que le monde ? Est-ce que c'est pas l'univers, j'imagine ? Ça doit être la planète, l'humanité, la civilisation, la culture, l'économie ?
Je m'intéresse beaucoup aux questions spatiales, donc c'est peut-être un peu plus que la Terre. D'ailleurs, si je m'intéresse aux questions spatiales, c'est pour des raisons, au départ, qui sont des raisons économiques. C'est parce que j'observe avec beaucoup d'intérêt cet écosystème qui est en train de se constituer, essentiellement aux États-Unis, et qui veut sortir de la Terre. Donc c'est peut-être un peu plus que la Terre. Mais le sous-titre du livre, c'est « Philosophie pour une planète prospère, durable et pacifique ».
Dans un ordre différent. Pacifique, oui. Durable et prospère.
Mais si vous voulez, c'est une synthèse, me semble-t-il, des principaux enjeux du moment. On a évidemment un enjeu économique. Un certain nombre de pays, surtout de pays développés, connaissent des phénomènes de chômage de masse, une croissance économique pas suffisante, en tout cas pas à la hauteur des attentes. Donc on a bien un sujet économique. Je pense que l'innovation est une réponse. On a bien évidemment un sujet de développement durable. Je pense que le principal sujet est celui du réchauffement climatique. Et là aussi, l'innovation, à mon avis, apporte des réponses qui sont bien plus opérationnelles que la décroissance que j'oppose à l'innovation. Et puis, une planète pacifique dans la mesure où l'innovation, et je développe aussi ce point, elle a une face positive, mais elle a aussi une face négative. Elle crée beaucoup de désordre. Alors, les économistes évoquent des phénomènes de destruction créatrice. Vous avez cité Schumpeter dans votre introduction. Hein, l'idée absolument géniale et extraordinaire de Schumpeter, ça a été d'expliquer que l'innovation, ça n'est pas simplement de la création, mais c'est un double mouvement de création de nouveau et de destruction de l'ancien.
Oui, ça crée des faillites.
Oui, mais pas que. Bien sûr, ça crée des faillites, ça crée des destructions d'emplois, ça crée même des destructions de métiers, si vous voulez. Donc c'est tout un monde ancien qui est détruit, au fond, avec l'innovation. Mais si vous êtes comme moi, un peu marxiste, un peu matérialiste, et si vous pensez que ces mouvements dans l'innovation, dans ce que Marx appelle les forces et les rapports de production, vont avoir des effets d'entraînement sur le reste de la société, c'est au fond, alors pardonnez-moi, je schématise un peu, mais toute une société qui est en train de s'écrouler, en raison de l'avènement d'un monde nouveau. Et ça peut créer beaucoup de désordre, ça peut créer beaucoup de tensions, ça peut créer des guerres civiles, ça peut créer des guerres, ça crée du terrorisme, et donc c'est un sujet.
Donc ce ne sont pas des révolutions, parce qu'on ne revient pas au point de départ, c'est plutôt des mutations.
Oui, d'ailleurs.
Irréversibles.
C'est le terme que je préfère employer. Alors, on emploie beaucoup le terme de révolution dans le langage courant, parce qu'on a parlé très tôt de révolution industrielle, quand on a voulu évoquer, à partir de la fin du XVIIIe siècle, la substitution du charbon au bois, et puis la machine à vapeur, l'arrivée de l'usine, l'émergence de l'usine, du salariat, etc., et tout ce qui s'en est suivi au cours du XIXe siècle. On a parlé de révolution, mais en effet, je trouve que le terme de mutation est plus précis, parce que dans la notion de mutation, vous avez la notion d'irréversibilité. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui est très important, me semble-t-il, à faire comprendre à nos contemporains. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas refaire un arbre à partir de papier. Et ce que je dis là, j'ai la faiblesse de penser que je n'enfonce pas une porte ouverte, parce que vous avez aujourd'hui une montée dans le débat intellectuel, dans le débat politique, une montée assez puissante de gens qui pensent qu'il faut revenir au monde d'avant. Or, ce que l'idée de mutation indique, c'est que...
Impossible.
C'est tout à fait impossible.
D'ailleurs, vous sortez de votre discipline dans cet ouvrage, Nicolas Bouzou. Vous êtes économiste de formation, de métier, on pourrait dire, mais... Vous essayez d'embrasser notre société, le monde dans lequel nous sommes, à partir de plusieurs points de vue.
Oui, mais
historique, philosophique, économique.
Pour une raison de fond.
qu'en pensent les spécialistes ?
Du mal, bien évidemment. Je vois à votre sourire que c'est la réponse que vous attendiez. Et c'est aussi d'ailleurs la réaction que j'attendais de leur part, mais peu importe. Peu importe, parce qu'il n'y a pas seulement un goût. Alors, il y a bien évidemment une question de goût personnel, je ne vais pas le nier, mais il y a aussi quand même une raison de fond. Quand vous êtes dans des périodes de mutation schumpeterienne, de destruction créatrice extrêmement importante, comme aujourd'hui, comme c'était le cas donc, à partir de la fin du XVIIIe siècle, à partir de la Renaissance, tout change. Ce n'est pas seulement l'économie qui change. La technologie change, l'économie change, les repères philosophiques, la politique. Le droit, c'est en cela que je disais tout à l'heure un peu sur le mode de la provocation, mais pas complètement que j'étais matérialiste ou marxiste. C'est-à-dire que je pense véritablement que c'est un changement du monde et pas seulement de l'économie qui s'opère. À partir du moment où tout change et à partir du moment où j'essaie de comprendre ce qui se passe, il faut bien que je m'intéresse à ce qui l'advient en amont de l'économie, c'est-à-dire la technologie, et en aval de l'économie, c'est-à-dire le droit, la politique, et puis la philosophie, parce que je pense qu'on a besoin d'un discours philosophique pour chapeauter en quelque sorte cette immense mutation. Et donc c'est la raison pour laquelle, en effet, je m'intéresse à toutes ces disciplines. Mais ce que je vais vous dire, alors, va encore faire davantage hurler les spécialistes de l'économie qui nous écoutent, parce que je vais adjoindre au fait d'embrasser large la prétention, l'immodestie, mais...
Ne traumatisez quand même pas l'auditoire de cette émission.
Non, mais les grands livres, les grands penseurs, ceux qui ont pensé la première révolution industrielle, Adam Smith, par exemple, étaient à la fois des philosophes et des économistes. Et c'était des économistes qui connaissaient extrêmement bien le monde réel. Adam Smith voyageait, visitait des usines. Schumpeter, que je cite beaucoup, est à la fois un économiste et un philosophe. Marx, que vous avez cité, était passionné par la technologie. Je pense que Marx était un très grand économiste, mais ça n'était pas seulement un économiste. Et ce que j'évoque là, à partir de la fin du 18e, et évidemment tout au long du 19e et même du 20e siècle pour Schumpeter, est vrai aussi au moment de la Renaissance. Les grands artistes de la Renaissance s'intéressent beaucoup à la médecine, s'intéressent beaucoup à la physique, Léonard de Vinci étant de ce point de vue-là l'exemple emblématique. Donc je n'ai aucune difficulté, si vous voulez, à assumer le fait d'essayer d'avoir une vision qui soit une vision la plus large possible.
Quand on vous lit, on a l'impression que vous êtes, quand on vous écoute aussi, très optimiste, très enthousiaste. Et en même temps, on vous sent préoccupé, perturbé, avec cette idée que ce que vous entrevoyez grâce à votre optimisme pourrait n'avoir pas lieu. Est-ce que vous êtes conscient de ce paradoxe, tension en vous qui vous fait espérer le meilleur et craindre le pire?
Oui, parce que c'est la notion même de destruction créatrice. C'est-à-dire qu'il s'agit bien d'un mouvement de création et de destruction. Ce que nous traversons, c'est fascinant et angoissant. Mais c'est les deux à la fois. Si vous voulez, c'est pas soit fascinant, soit angoissant. Je pense qu'il faut vraiment assumer le fait que c'est les deux. Alors évidemment, quand vous êtes chauffeur de taxi ou hôtelier et que vous voyez arriver Uber ou Airbnb, c'est essentiellement angoissant. Mais quand vous n'êtes comme moi ni chauffeur de taxi, ni VTC, ni hôtelier, ni actionnaire d'Airbnb, donc que vous essayez de voir l'ensemble du phénomène, c'est à la fois fascinant et angoissant. C'est fascinant dans la mesure où l'innovation, je pense, va nous permettre de résoudre beaucoup de problèmes, alors y compris des problèmes qui, moi, m'inquiètent à titre personnel, des problèmes de santé, par exemple, des problèmes de dérèglement climatique. Et donc ça, je trouve que c'est absolument fascinant. Et en même temps, cette phase de destruction créatrice, elle est nécessairement conflictuelle. Mais et elle peut aller d'un conflit qui est un conflit bénin, celui des taxis contre les VTC, à des conflits qui sont beaucoup plus larges.
Mais qu'est-ce que vous feriez si vous étiez moniteur d'auto-école ? Menacé par l'apparition des voitures sans chauffeur.
Je ferai autre chose. Je ferai autre chose, c'est-à-dire que je me dirais que j'ai un savoir qui n'est pas simplement le fait de savoir enseigner à des gens de conduire, mais j'ai un véritable savoir de professeur. J'ai peut-être créé mon entreprise, je sais recevoir des clients, je sais faire une comptabilité, et donc j'ai accumulé énormément de choses au cours de ma carrière, et j'essaierai d'utiliser ça pour faire autre chose. Parce que ce qui sous-tend votre question, c'est le fait que je prophétise bien évidemment la fin des auto-écoles à partir du moment où je pense que la voiture sans chauffeur est quelque chose qui va arriver relativement vite dans nos vies. À l'horizon de 15-20 ans, je pense qu'il y aura essentiellement des voitures sans chauffeur. On aura moins de moniteurs d'auto-école, on aura moins de chauffeurs de taxi, on aura moins de chauffeurs routiers aussi. Donc ce sont des métiers qui vont disparaître. Mais je ne suis pas moniteur d'auto-école, donc j'ai un petit peu de mal à répondre à votre question.
Pour vous donner le temps de réfléchir, je vais vous faire écouter une chanson qui devrait vous plaire. Mmh. Elle s'appelle A Better Future. Elle est de David Bowie. Nicolas Bouzou, vous avez l'air d'être très optimiste, on l'a dit, en même temps angoissé, vous l'avez vous-même avoué, mais vous avez des pages très dures pour Jeremy Rifkin et son idée de troisième révolution industrielle. Vous dites ses livres dégagent des effluves de guimauve molle et trop sucrée. Pourtant lui, il est optimiste comme vous. Qu'est-ce que vous lui reprochez ?
Pas de la même façon. Il y a deux traits saillants dans l'analyse de Jeremy Rifkin. La première chose, c'est que la technologie nous ferait sortir du système capitaliste. Lui, il y voit d'ailleurs un aspect positif, ce qui n'est pas mon cas, parce que j'aime l'alliance du capitalisme et de la démocratie, cette démocratie libérale que nous avons construite depuis plusieurs siècles. C'est véritablement un monde qui je pense, nous a apporté énormément de bien-être, et je crois qu'il faut le défendre. Ça n'est pas le cas de Jeremy Rifkin, mais en outre, je pense que son idée selon laquelle, ce que l'on appelle l'économie du partage en particulier, c'est-à-dire l'idée selon laquelle la technologie permet aujourd'hui de mettre en rapport des particuliers qui peuvent procéder à des échanges dans le domaine des logements, par exemple. Cette idée selon laquelle la technologie nous ferait sortir du capitalisme est, à mon avis, complètement fausse. Je crois même que c'est très exactement l'inverse. Je pense que c'est le stade ultime du capitalisme dans la mesure où la technologie permet aux gens de monétiser l'usage d'un capital, ce qu'elle ne faisait pas auparavant. Il y a 20 ans, si vous partiez pour des raisons professionnelles, par exemple 2 ou 3 mois à l'étranger, eh bien, soit vous laissiez votre appartement en l'état, soit vous le prêtiez à un ami, un cousin, je ne sais pas. Aujourd'hui, la technologie, elle vous incite à le louer. Et donc, vous allez tirer de ce capital un rendement financier, ce qui n'était pas le cas auparavant. Donc si vous voulez, j'ai véritablement du mal à voir en quoi la monétisation de ce capital, et là encore on est presque dans le capital de Marx, si vous voulez, j'ai du mal à comprendre comment cette monétisation du capital nous ferait sortir du capitalisme. Ça c'est la première chose. La deuxième chose que je n'aime pas chez Jeremy Rifkin, c'est l'idée, alors qu'il défend depuis très longtemps, puisqu'il avait déjà écrit un livre à ce sujet dans les années 90, l'idée de fin du travail. Moi je ne pense pas que la technologie remplace le travail humain. Je pense même très exactement l'inverse. Je pense, pour parler comme un économiste, que ce sont des facteurs de production complémentaires et non pas substituables. C'est-à-dire que plus on a de technologie dans nos vies, plus on investit dans la technologie, au fond, plus on a besoin, en parallèle, d'investir dans le capital humain. Et si
Mais c'est pas le même travail.
Je pense ça,
c'est pas le même
évidemment.
Travail.
On est entièrement d'accord. Ce à quoi nous avons à faire face, c'est une gigantesque mutation du travail. Mais comprenez-moi bien, c'est autre chose de prétendre que nous faisons face à une gigantesque mutation du travail, qui va nous demander des politiques publiques sans doute d'ailleurs un peu différentes, notamment dans le domaine de la formation, et de dire que nous assistons à la fin du travail. Si on assiste à la fin du travail, ou plus exactement, si le travail est réservé ces prochaines années à quelques happy few qui vont construire des robots hybridés à des intelligences artificielles, qui vont les programmer, qui vont s'occuper de leur maintenance, eh ben, il faut mettre en place un revenu universel, c'est-à-dire qu'on aura 10% de l'humanité qui travaillera, qui gagnera beaucoup d'argent, il faudra subventionner 90% de l'humanité restante qui ne pourra rien faire. Je crois que c'est, non seulement je pense que ça n'est pas souhaitable, mais je pense que c'est complètement faux. Je pense que les gisements d'emploi, non, parce que Je pense que l'emploi, notamment sous sa forme salariée, va voir sa part de marché diminuer ces prochaines années. Mais en tout cas, le travail humain a un magnifique avenir devant lui. Je vais vous donner un exemple extrêmement concret à l'appui de ma thèse. Dans les hôpitaux dans lesquels on achète aujourd'hui beaucoup de robots chirurgicaux, c'est-à-dire des robots qui peuvent aider considérablement des chirurgiens et qui peuvent permettre de réaliser des gains de productivité très importants dans le domaine de la chirurgie, on recrute aussi énormément d'infirmiers et d'infirmières. Parce que un robot peut, en tout cas partiellement, se substituer aux gestes techniques du chirurgien. En revanche, l'infirmier ou l'infirmière qui vous met une aiguille dans le bras, qui vous dit « Monsieur Klein ou Monsieur Bouzou, les pistes noires, c'était peut-être pas tout à fait de votre niveau. » ça, non, si vous voulez ça. Et vous voulez même, d'ailleurs, que ce soit un humain qui fasse ce travail-là. Donc, mutation du travail, oui, c'est notre principal enjeu. Fin du travail humain, je n'y crois pas du tout.
Alors, vous excuserez mon incompétence, Nicolas non. Bouzou, mais bon, je viens de comprendre, j'avais compris en vous disant que vous ne pensez pas du bien des thèses de Rifkin, mais pas non plus des thèses de Robert Gordon, cet économiste qui prévoit une grande stagnation en observant que les taux de croissance diminuent partout, que l'investissement ne rapporte plus autant qu'avant dans le domaine de la technologie. Qu'est-ce qui vous fait dire qu'il a tort?
Déjà, l'honnêteté m'amène à dire que les économistes aujourd'hui partagent plutôt la thèse de Robert Gordon, c'est-à-dire la thèse de la longue stagnation
séculaire.
La stagnation séculaire. Vous l'avez très bien résumé, mais j'ajouterai quelque chose qui est assez éclairant pour que les auditeurs aient en main vraiment les termes du débat. Ce que nous dit Robert Gordon, c'est que oui, l'intelligence artificielle, les robots, ce sont des innovations, bien évidemment, qui sont assez spectaculaires, mais on ne voit pas aujourd'hui l'effet de ces innovations dans les chiffres de la productivité, alors que l'on voyait les effets de l'électricité ou de la machine à vapeur dans les statistiques de la productivité pour l'électricité de la fin du 19e siècle et pour la machine à vapeur du début du 19e siècle. Donc ces thèses sont bien évidemment à prendre très, très au sérieux. Simplement, mon idée, c'est de dire, et là encore, je me base quand même beaucoup sur l'histoire. Alors, ce qui est insuffisant d'ailleurs, du point de vue épistémologique, parce que l'histoire n'est pas forcément faite pour se répéter, mais ce que l'on a vu dans les cycles d'innovation précédents, c'est le fait que l'innovation mettait quand même beaucoup de temps à se transmettre aux gains de productivité et à la croissance. Pour une raison qui est assez simple, c'est le fait que si la destruction créatrice fait assez rapidement son œuvre dans le domaine de la technologie, elle met beaucoup de temps à faire son œuvre dans le domaine des organisations. Je reprends l'exemple que j'évoquais il y a quelques instants sur les robots dans les hôpitaux. Si vous voulez que l'achat d'un robot se transforme dans un hôpital en gain de productivité et en croissance, comme vous allez faire davantage de chirurgie ambulatoire, c'est-à-dire que vous allez moins hospitaliser les gens, vous allez pouvoir les faire rentrer chez eux le soir même, ça veut dire qu'il va falloir transformer votre hôpital de lieu d'hébergement. Un hôpital est un lieu d'hébergement depuis l'Antiquité, c'est l'étymologie même du terme hôpital. Il va falloir transformer votre hôpital en quelque sorte en sanatorium. Il va falloir revenir à la notion de sanatorium, c'est-à-dire avoir un lieu où vous pratiquez de la médecine, vous pratiquez des opérations chirurgicales, mais un lieu où les gens ne dorment pas. Comme ça, vous allez pouvoir réaliser beaucoup, beaucoup d'opérations chirurgicales et vous allez faire des gains de productivité colossaux dans le domaine de la chirurgie. Mais en revanche, vous n'allez pas perdre, entre guillemets, votre argent à faire de l'hébergement. Et s'il y a besoin d'hébergement, à la limite, c'est un hôtel à proximité qui peut nouer un partenariat avec l'hôpital en question et s'occuper de l'hébergement. Vous voyez tout ce que ça nécessite comme transformation en termes d'organisation. Quand vous regardez un hôpital aujourd'hui, moi j'habite pas très loin de l'hôpital Henri Mondor à Créteil, vous voyez un bloc absolument colossal dans lequel vous avez essentiellement des chambres et vous n'avez pas d'hôtel à proximité. Donc avant que Schumpeter dans l'innovation soit Schumpeter dans l'organisation, eh bien vous pouvez avoir 5, 10, 15, 20 ans. C'est la raison pour laquelle la transmission de l'innovation technologique à l'innovation en termes de croissance économique, est quelque chose qui est relativement lent. Et je pense que c'est cette erreur que commet Gordon. Gordon nous dit le robot chirurgical ne générera jamais de gains de productivité et de croissance parce que ce n'est pas une innovation importante. Moi, je dis, il va générer beaucoup de gains de productivité et de croissance. Simplement, c'est un tel bouleversement pour les organisations que cela prendra nécessairement beaucoup de temps.
France Culture.
La conversation scientifique par Étienne Klein.
Justement, c'est là qu'on s'éloigne de l'idée de progrès, puisque l'idée de progrès laissait promettre un moment où on aurait moins de choses à faire, on pourrait profiter des efforts accomplis par les générations précédentes, et le travail à faire pour maintenir l'état de la société serait moindre que celui accompli par ceux qui ont permis l'advenue de cet état. Et là, on voit qu'il y a énormément de mutations qui arrivent, il y a des efforts à faire, des transformations gigantesques à opérer. Et est-ce que la résistance à l'innovation ne vient pas du fait qu'on est tous un peu conservateurs? C'est-à-dire que nous sommes tous capables de nommer une chose dont nous voudrions que nos enfants la connaissent comme nous l'avons connue. Ce peut être l'enseignement du latin, ce peut être la façon d'acheter des tickets de train, ce peut être un paysage, ce peut être un lieu, ça peut être une pratique, ça peut être l'hôpital. Voilà. Et donc, comment est-ce qu'on arrive à convaincre que ça sera mieux plus tard si on a l'impression que ce qui est là est déjà mieux que ce qui était avant?
Je suis d'accord sur votre raisonnement, mais je ne poserai pas la question comme vous. Je pense justement qu'il faut arriver à se convaincre que ce sera mieux après-demain, pour faire en sorte que demain, qui sera le moment de la transition, soit acceptable. Ou pour être encore plus précis, il faut mettre en place les conditions qui permettront de faire en sorte que après-demain sera véritablement un moment de progrès, sachant que demain sera un moment de déstabilisation.
Il faut un projet de société.
Oui, il faut un projet de société, mais permettez-moi de filer mon exemple d'hôpital, mais on pourrait prendre d'autres exemples dans le domaine de l'énergie ou de la mobilité. Qu'est-ce qu'on est en train d'essayer de faire dans le domaine de la santé? On est en train d'essayer de penser des lieux de soins qui permettront de guérir des maladies pour lesquelles on n'a pas de solution thérapeutique aujourd'hui, ou pour lesquelles on n'a pas de solution thérapeutique satisfaisante. Donc on est en train de construire ça dans des lieux dans lesquels les personnes feront de très courts séjours. Je persiste à penser, pardonnez-moi, mais que c'est un progrès. Je pense même que c'est quelque chose d'absolument extraordinaire. On est en train de continuer le combat séculaire pour la vie et pour la vie en bonne santé. C'est pas seulement l'allongement de la durée de vie qui est en train de se jouer, mais l'allongement de la durée de vie en bonne santé. Je pense, vous parliez de projet politique, qu'en Europe, en France aussi, mais au fond, notre défi est européen, notre projet politique et notre projet de société consiste à faire en sorte que tous les Européens aient accès à ce type de soins, à ce rêve que je viens de développer. Et donc, il faut absolument que l'on ait ce discours sur l'avenir, pour faire en sorte que les mutations, la transition d'aujourd'hui et de demain, qui sera nécessairement pénible, faire en sorte qu'elle soit acceptable. Et ça, c'est la grande différence entre aujourd'hui et le 19e siècle, ou entre aujourd'hui et la Renaissance. Le 19e siècle, une grande partie de la population en tout cas, pensait que après-demain serait nécessairement mieux que demain. La population pensait que cette déstabilisation de la société, elle ne serait pas en pure perte. Quand les gens quittaient les campagnes pour aller travailler en usine, c'était un déracinement, c'était extrêmement douloureux. Même au XXe siècle, d'ailleurs, vous avez un film qui je trouve, illustre ça de façon absolument magnifique. Alors, c'est un film qui, lui, date du début des Trente Glorieuses, mais c'est Rocco et ses frères de Luchino Visconti. Et vous voyez cette famille de Sicile qui est déracinée et qui va travailler dans l'usine Alfa Romeo de Milan, si je ne me trompe. Donc, vous avez bien cette notion de déracinement, mais la conclusion du film, je ne la cite pas mot pour mot, pardonnez-moi, bien qu'elle soit superbe, il faudrait. Mais si nous faisons tout ça, c'est parce que nous savons que demain, nous serons plus libres, plus prospères. Et donc, évidemment, c'est difficile de quitter la Sicile, c'est difficile de quitter notre maison familiale. Mais nous le faisons parce que ça représente un véritable progrès pour l'avenir de nos enfants. Cette idée-là, nous l'avons perdue.
C'est une idée qu'ancienne, c'est l'idée que le progrès est une idée qui est à la fois consolante, elle nous permet de mieux supporter le présent en faisant la promesse d'un futur qui serait meilleur, et en même temps sacrificiel. Oui, c'est-à-dire qu'il faut accepter de sacrifier son présent personnel au nom d'un futur collectif qui est nommé, configuré, dessiné. Et s'il n'est pas dessiné, au nom de quoi se sacrifierait-on?
Mais c'est bien la raison pour laquelle je considère que l'obligation des intellectuels aujourd'hui, c'est de construire un discours sur le futur. Et c'est ce qui manque aujourd'hui en France, en Europe, d'ailleurs dans l'ensemble des pays développés.
Mais c'est un discours ambitieux, je vous cite. L'urgence, c'est de reconstruire un discours économiste schumpeterien qui permette la croissance économique, humaniste, qui ne laisse personne sur le bord du chemin, et spirituel, qui explique pourquoi c'est politique. Ça fait beaucoup.
Oui, mais...
Alors, parmi vos héros dans le domaine des intellectuels, il y a Stefan Zweig. Qu'est-ce que vous aimez en lui? cette alliance entre le passé et le futur qu'il arrive
oui,
à
synthétiser. Oui, absolument. Alors, ce que j'aime, alors bon, déjà, j'aime les gens qui écrivent bien.
Et moi aussi.
Oui, je sais. Et pour moi, la littérature est une, c'est la tradition française, au fond. C'est-à-dire que nos grands alors Zweig n'était pas français, mais comme nous avons du temps, je prends quand même une minute pour répondre à votre question sur un sujet qui n'est pas un sujet d'économiste, mais qui me passionne et qui est très, je trouve très, très important. La tradition française, Montaigne, Pascal, Descartes, Voltaire, Rousseau, évidemment, c'est d'avoir une réflexion intellectuelle, mais d'écrire bien. C'est la grande différence avec les Allemands. Vous citiez Kant, pardonnez-moi de dire que Kant était bien évidemment un immense penseur, mais qui n'écrivait peut-être pas tout à fait comme Montaigne, par exemple. Zweig, lui, écrit formidablement bien. Et ce que je trouve fascinant chez Zweig, c'est justement le fait qu'il enchante l'innovation et qu'il le raconte. Quand dans une nouvelle qui s'appelle le premier mot qui traversa l'océan, Zweig explique comment, suite aux premières liaisons permises par le télégraphe entre le vieux continent et l'Amérique du Nord, vous avez pendant des journées entières des fêtes qui sont organisées, des gens qui défilent dans la rue avec des banderoles, c'est la reine d'Angleterre qui prononce le premier mot, et ça dure des jours et des jours. Et quand je lis ça, je me dis, nous avons perdu quelque chose, parce que quand les laboratoires pharmaceutiques, il y a 2 ans, ont mis sur le marché un médicament qui soignait l'hépatite C, vous avez 400 000 Français qui souffrent de l'hépatite C, qui est vraiment une sale maladie et qui était mal guérie par de sales traitements, eh bien, je n'ai vu personne sortir dans la rue avec des banderoles pour dire « mais c'est formidable, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire, nous sommes en train de vaincre une maladie ». J'ai vu en revanche beaucoup de gens qui ont râlé contre le prix très important de cette médication. Et donc là, je pense très honnêtement que nous avons perdu quelque chose et c'est ce que j'aime.
Zweig admirait, aimait l'innovation.
Et il aimait le passé.
Mais il s'est suicidé.
Oui, mais pas pour ces raisons-là. Pas pour ces raisons-là. Non, ce qui me touche beaucoup chez Zweig, mais c'est ce que vous avez souligné, Étienne, parce que je le vis aussi, c'est le fait que je me définis comme un économiste schumpeterien dans la mesure où je pense que Schumpeter aujourd'hui, la destruction créatrice est un concept incroyablement puissant.
Mais schumpeterien, c'est la même chose que libéral.
Mais oui, peut-être, oui. Alors, en tout cas, c'est sans doute pas très éloigné. Mais en même temps, moi aussi, il y a des choses dans le passé que j'aime. Alors, je vais vous donner, je suis sûr que nous allons nous rejoindre. Moi, j'aime les livres. Mais je suis pas sûr que nous ne vivions pas la mort du livre. Je ne le souhaite pas. Le livre papier. Hein.
Papier, mais pas la lecture.
Ouais, non. Non, mais j'aime le livre papier. J'aime les cartes routières aussi. Mais j'adore déplier une carte routière sur la table du salon. Je trouve que c'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Surtout en France, où vous avez énormément de routes, vous avez des lieux-dits absolument partout. En France, on donne un nom à tout. Hein. C'est absolument extraordinaire. J'aime les cartes routières. C'est bien évidemment la fin des cartes routières. Donc, j'aime le passé. Ce passé-là va disparaître. Et donc, ce que nous avons de mieux à faire, c'est construire un... C'était la chanson de David Bowie que nous avons écoutée, hein, mais qui s'appelait donc A Better Future. C'est construire un futur qui soit meilleur que le passé, parce que nous n'arrêterons pas la technologie. Ça, c'est très important. Personne. On a 10 000 ans de recul sur l'innovation, hein, depuis le passage de l'ère paléolithique à l'ère néolithique, l'invention de l'agriculture. Nous n'avons jamais réussi à arrêter la technologie. La technologie est un flux, ça aussi Marx l'avait vu, hein, la technologie est un flux qui est incroyablement puissant. Donc nous ne pouvons pas arrêter la technologie, nous n'arrêterons pas la disparition des cartes routières. En revanche, faisons en sorte que cette disparition, elle serve quelque chose qui est extraordinaire, c'est-à-dire par exemple le fait que nous puissions nous déplacer rapidement, avec moins d'embouteillage, dans des voitures qui n'émettent pas de CO2, ce genre de choses. Construisons un futur meilleur.
On vient de parler, Nicolas Bouzou, d'un auteur que vous admirez, Stéphane Zweig, mais il y a aussi des villes que vous aimez être en vacances, par exemple Zurich. Qu'est-ce qu'il y a à Zurich qui vous plaît tant? Est-ce que c'est une ville duale qui fait coexister l'immobilisme et la révolution? C'est là qu'est né le mouvement Dada, par exemple, qui fait coexister l'argent et la déjante.
Oui.
Qu'est-ce qu'il y a? Il y a une sorte d'antinomie réalisée là qui vous plaît?
Je suis pas sûr que ce soit une antinomie. C'est plutôt qu'une ville comme Zurich, elle fait mentir Schumpeter. Elle fait mentir Schumpeter dans la mesure où vous êtes dans l'une des villes les plus innovantes du monde. L'école polytechnique de Zurich est un endroit qui regroupe des chercheurs du monde entier qui font des recherches sur l'intelligence artificielle, les nanotechnologies.
Une mine de prix Nobel.
Vous connaissez exactement.
Einstein.
Vous connaissez très bien, évidemment. Bien sûr. Et en même temps, c'est une ville qui a su conserver son passé. C'est l'une des plus vieilles villes d'Europe, mais dans lesquelles vous pouvez encore sentir l'histoire. Et notamment, vous avez à Zurich, on parlait de Stefan Zweig tout à l'heure, vous avez la maison Schwert. Zweig y consacre une nouvelle qui était un hôtel dans lequel ont résidé Mozart, Casanova, Zweig lui-même. Et cette maison, elle existe toujours, c'est absolument extraordinaire. Alors aujourd'hui, je suis allé voir l'interphone de cette maison, et aujourd'hui, ce sont des gestionnaires de patrimoine, ce sont des banques. Alors évidemment, c'est un peu triste. Oui, vous faites la grimace, ce que les auditeurs ne voient pas, je suis d'accord avec vous. C'est un peu triste, mais en même temps, cette maison, elle existe toujours, on voit toujours son reflet dans la rivière, et donc on ne l'a pas détruite. Alors vous avez des gestionnaires de patrimoine, c'est pas idiot non plus, hein. C'est quand même quelque chose qui est très utile, et ça participe à la prospérité de la Suisse. Je vais faire hurler beaucoup de nos auditeurs, mais en même temps, on a gardé la maison.
Elle n'a pas été remplacée, elle est toujours là, ouais. Elle a d'autres fonctions, mais justement, si nous avons peur du changement, c'est peut-être parce que nous pensons que le changement sera un remplacement.
C'est un remplacement.
Maintenant, justement, il y a une contradiction entre le changement et l'identité que les Grecs avaient vu. Et la façon de résoudre cette contradiction, c'est celle que propose la langue française par exemple, qui est que le sujet du verbe changer, quand on dit que X a changé, ce qu'on veut dire, c'est que X est le même après le changement. C'est toujours le même X. Et donc, c'est pas un remplacement. X n'est pas devenu Y. Quand on dit que X a changé, on veut dire que X est le même, il n'a pas changé. Ce qui a changé, c'est quelque chose de X, une propriété secondaire.
Non mais votre remarque m'éclaire beaucoup.
Voilà.
Je n'avais pas pensé.
Et donc, le changement suppose l'identité conservée.
Votre remarque m'éclaire beaucoup. Non mais on n'échappe pas à une remise en cause du passé. Mais vous avez des pays... Je vais prendre deux exemples. Prenez l'Asie aujourd'hui. En Asie, on détruit. On détruit énormément de choses. On détruit des villages, on détruit des champs, on détruit des monuments pour construire des villes qui sont des villes nouvelles. En Europe, on est très attaché à notre passé. Je suis frappé quand je voyage en Europe, comme vous, de voir la prolifération des lieux de mémoire, des plaques sur les immeubles qui indiquent que telle ou telle personne a vécu. Parfois, d'ailleurs, des personnes qui ne sont pas très, très connues. Je trouve ça absolument, absolument fascinant. Mais en Europe, on arrive à faire de la transformation. On arrive à transformer du vieux en moderne, c'est-à-dire qu'on arrive à faire mentir Schumpeter, et ça, vous le voyez dans les villes, on arrive à faire mentir Schumpeter, mais sans justement rester rivé dans le passé. Alors, il y a un pays qui arrive à faire ça bien, j'ai un petit peu de mal à le dire depuis le mois de juin, parce que c'est un pays qui me passionnait, et c'est un pays avec lequel je suis fâché, c'est le Royaume-Uni, bien évidemment, et si je suis fâché, c'est bien évidemment en raison du Brexit. J'ai vraiment l'impression que ma femme m'a quitté, je le prends de façon complètement irrationnelle, hein. Pas du tout...
Ça a l'air d'aller quand même.
Je le prends. Mais pas tant que ça. Je suis vraiment fâché. J'y vais beaucoup moins. Mais prenez une ville comme Manchester. Manchester est toujours une ville qui a été à l'avant-garde, des mouvements sociaux, avant-garde du syndicalisme, avant-garde du féminisme, aujourd'hui avant-garde de l'innovation d'une certaine façon. Et Manchester est une ville dont l'urbanisme est absolument extraordinaire. C'est-à-dire que c'est une ville qui construit beaucoup de choses nouvelles en plus, donc vous construisez des tours, des bâtiments récents, mais c'est aussi une ville dans laquelle on réutilise toujours les bâtiments anciens. Et donc, vous avez cette conjonction absolument extraordinaire, beaucoup de choses modernes, une ville qui est restée une ville marquée par le gothique, par le revival gothique, pardonnez-moi pour l'anglicisme, du 19e siècle, et une ville qui attire aujourd'hui beaucoup de chercheurs du monde entier. J'espère pour elle que ça va continuer, j'en suis pas sûr. Mais en tout cas, on arrive, voilà, vous avez un exemple européen, Manchester, Zurich, Paris, pourrait faire ça. Marseille le fait sans doute mieux que Paris, d'ailleurs, aujourd'hui. C'est-à-dire arriver à faire du moderne sans tuer l'ancien. Et ça, je pense, pour le coup, que là, on est en train de parler d'urbanisme, et il me semble que c'est le grand sujet intellectuel de l'Europe.
Donc c'est le changement sans le remplacement.
En tout cas, en essayant de minimiser la destruction du passé.
Nicolas Bouzou, je voudrais vous faire écouter une chanson dont le titre est « The sun will shine on you ». Le soleil va briller sur vous. Elle est de Jeff Lynne, à condition que je prononce bien son nom.
You got to learn how to cry before you learn how to fall. You got to turn from the darkness and go through it all. Just remember that it's alright It's alright to be true, and the sun will shine on you. You got to try to remember the promises you made. You got to hold on to yourself and never but the sun will shine on you. Oh yeah.
Nicolas Bouzou, dans votre livre L'innovation sauvera le monde, avec comme sous-titre Philosophie pour une planète pacifique, durable et prospère, vous racontez, c'est une très belle page d'ailleurs, votre visite de la maison de Darwin. Qu'est-ce qu'elle vous a inspiré, cette visite? C'est le fait que la maison n'a pas évolué?
Oui, alors c'est une maison qui est au sud de Londres, au nord du Kent, que chacun peut aller visiter dans une ville qui s'appelle Down, qui est une ville, elle a encore, on parlait de Manchester il y a quelques temps, l'Angleterre est un pays qui est un pays moderne, l'un des pays les plus innovants en Europe, mais en même temps vous pouvez en effet trouver des villages comme ça, vous pouvez aller déjeuner dans le pub dans lequel Darwin jouait au billard, mais on est en train de se rendre compte avec le temps que les enseignements de Darwin dans le domaine des sciences sociales, dans le domaine scientifique qui est le vôtre, Étienne, c'est complètement évident, dans le domaine des sciences dures c'est évident, mais dans le domaine des sciences sociales on est en train de se rendre compte que l'apport de Darwin est quelque chose qui est absolument extraordinaire, dont on n'a pas fini de tirer les fils. Et Darwin, au fond, cette idée selon laquelle, l'idée centrale selon laquelle les espèces qui survivent sont celles qui s'adaptent aux modifications de leur environnement, et je trouve un fil rouge extrêmement puissant quand on essaie de penser
qu'elles sont adaptées
à l'évolution.
Elles s'adaptent, elles sont adaptées.
Elles sont adaptées. Mais justement, si je dis elles s'adaptent, vous avez raison de me reprendre là-dessus, c'est parce que dans le domaine des sciences sociales et de l'économie, on préfère qu'elles s'adaptent, et elles peuvent s'adapter. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'est pas interdit à une entreprise, à une personne, à un pays de s'adapter face à des mutations de l'environnement technologique et économique, et c'est très exactement le défi auquel nous devons faire face. Et il arrive que des sociétés ne s'adaptent pas. Et en France, nous avons connu ça. Je vais vous donner un exemple concret. Alors, je ne le traite pas dans ce livre-là, mais je le traitais dans un livre précédent, qui est La Société de l'Ancien Régime, en France. On sait aujourd'hui que la Révolution française ne s'est pas produite dans un moment qui était un moment de crise économique, mais plutôt dans un moment de reprise de l'économie. À partir des années 1750, on commence à avoir un retour de la croissance économique, une augmentation du pouvoir d'achat, pour des raisons qui sont liées à l'innovation, parce qu'on est au début de ce que l'on appellera la révolution industrielle. Simplement, l'économie française, elle est réprimée. Elle est réprimée. Vous avez, comme aujourd'hui, un certain nombre de réglementations. Si je voulais commettre un horrible anachronisme, les historiens vont hurler, mais le principe de précaution du XVIIIe siècle commence déjà à se décliner sous forme de réglementation, de fiscalité excessive. Et donc, les entrepreneurs français voient bien qu'il y aurait des choses très intéressantes à faire, notamment dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de l'énergie, mais le corporatisme de l'ancien régime les en empêche. Et c'est très exactement cette inadéquation de nos structures juridiques, politiques à l'environnement technologique qui va aboutir à la disparition de la société de l'ancien régime. Et d'ailleurs, de ce point de vue-là, la théorie darwinienne n'est pas très éloignée de la théorie marxiste, selon laquelle la Révolution française, elle est liée à l'inadéquation entre ce que Marx appelle l'infrastructure de la société, donc pardonnez-moi de schématiser, mais l'état de la technologie et de l'économie, aux superstructures de la société, c'est-à-dire le droit à la politique. Quand les superstructures ne s'adaptent plus à l'infrastructure, vous avez ce phénomène social qu'on appelle la révolution et qui remet tout ceci en cohérence. Darwin, je trouve, explique ça de façon incroyablement incroyablement claire. Et c'est en pensant à ça aussi que j'ai trouvé que cette traversée de la maison de Darwin est tout à fait émouvante. Et très peu de choses ont changé, comme vous le soulignez. Vous pouvez toujours voir les vers de terre que Darwin utilisait. Sa femme était musicienne et elle jouait de la musique. Et l'une des obsessions de Darwin, c'était d'essayer de savoir si les vers de terre pouvaient entendre. Et donc la femme de Darwin jouait de la musique. Et Darwin observait pendant ce temps-là les comportements, les réactions des vers de terre.
Voilà, justement, à propos de réactions, très belle transition. Quelles sont à vos yeux les incarnations aujourd'hui les plus dangereuses de la réaction au changement que vous appelez de vos voeux?
Il y en a deux. Comme toujours d'ailleurs, hein, ce sont toujours les mêmes dans ces phases de mutation technologique et économique. C'est le nationalisme d'un côté, dans le domaine politique, et le fondamentalisme de l'autre, dans le domaine religieux. Parce que
le nationalisme, ce que Zweig appelait la pestilence des pestilences.
Oui, oui. Et c'est formidable de faire reprononcer cette phrase à Zweig, parce que aujourd'hui vous avez une montée du nationalisme dans quasiment tous les pays développés. Alors en France c'est très clair, bien évidemment, aux États-Unis, au Royaume-Uni, même en Allemagne, que l'on croyait immunisé contre le nationalisme, on voit que les partis d'extrême droite sont en train de remonter dans l'opinion, parce que le nationalisme propose un discours cohérent à la partie des opinions publiques qui soit est la perdante de la destruction créatrice schumpeterienne ou qui pense qu'elle pourrait être perdante de la destruction créatrice schumpeterienne. Donc les nationalistes vous disent on va revenir au monde d'avant, avant l'Europe, avant la mondialisation, avant l'innovation. Je suis très frappé et très intéressé de voir que dans les discours de Trump aux États-Unis ou même de Marine Le Pen en France, vous avez un discours anti-innovation, hein, qui est un discours très, très fort. La première mesure du Front National, par exemple, dans le domaine de l'écologie, c'est l'interdiction des OGM, alors qui sont d'ailleurs déjà interdites en France, peu importe, mais on voit que c'est une mesure qui concerne l'innovation et la crainte qui est en tête du programme sur l'écologie. Donc je trouve ça tout à fait symptomatique.
Et quel est l'argument? J'avoue que je n'ai pas lu ce programme.
Oh, l'argument, c'est que c'est dangereux et que l'agriculture d'avant les OGM était meilleure pour la santé que l'agriculture d'après les OGM. Donc c'est un argument qui est assez simple, mais qui porte parce que les opinions publiques sont très réceptives à cela. Et donc vous avez les nationalistes qui vous proposent de revenir à avant en fermant les frontières, ce qui d'ailleurs est juste. C'est-à-dire que je pense que si on ferme les frontières et si on revient au protectionnisme, c'est la meilleure façon de fabriquer de la décroissance, c'est-à-dire de la récession. Donc je n'adhère pas à cette politique, mais elle a sa cohérence et les gens ressentent cette cohérence. Et puis, d'un autre côté, vous avez le fondamentalisme religieux. Alors, je mets quand même un bémol parce qu'on me l'a beaucoup reproché. Je ne considère bien évidemment pas qu'un électeur de Marine Le Pen et qu'un djihadiste, c'est la même chose. Mais ce serait tellement stupide que merci de ne pas penser que je puisse être émetteur d'une telle stupidité. Mais vous avez une demande de radicalité aujourd'hui qui peut en effet être incarnée par le nationalisme ou au pire par le djihadisme et par Daesh qui propose un discours. Et ce discours est le suivant. Cette société, elle fait du mal, elle peut vous détruire et donc vous avez raison vous-même en retour de vouloir la détruire. Il faut détruire cette société de mondialisation, cette société moderne. Et ce qui m'inquiète beaucoup, c'est que l'innovation aujourd'hui, la technologie avance suivant une courbe qui, dans certains domaines, est une courbe exponentielle. Je pense à la génétique ou à l'intelligence artificielle. Et donc, si nous ne luttons pas, si nous n'avons pas un discours intellectuel qui tienne à distance ces deux pôles d'attraction, ces deux pôles d'attraction vont devenir de plus en plus irrésistibles. Quand je vois, par exemple, que le premier bébé à trois parents est né il y a quelques semaines au Mexique, si je ne m'abuse, et que le Royaume-Uni a mis en place une législation qui autorise la naissance de bébés à trois parents. Alors, bébé à trois parents, ça veut pas dire que trois personnes, neuf mois avant la naissance, ont fait des choses bizarres dans leur lit. Ça veut dire qu'on a croisé trois génomes. Et pour une bonne raison, qui était faire en sorte que le bébé ne souffre pas d'une maladie qui était une maladie extrêmement, extrêmement grave. Et donc il faut comprendre ça, il faut comprendre aussi que si on autorise les bébés à trois parents, ça veut dire que dans quelques années, peut-être, nous allons devoir autoriser des familles à à trois adultes, j'allais dire des couples à trois adultes. Vous voyez dans quelles difficultés conceptuelles nous sommes en train de pénétrer. Mais voilà, ça, ce sont les sujets de l'avenir. Sujets qui vont se poser à nous ces prochaines années. Donc il faut absolument bâtir une éthique, une morale autour de ça. Sinon, à la fois le nationalisme et le fondamentalisme vont devenir encore plus attractifs qu'ils le sont aujourd'hui. Et ça a toujours été le cas par le passé.
Est-ce qu'il n'y a pas une troisième forme d'incarnation qui vient de ce que Günther Anders, qui était le premier mari d'Anna Arendt, appelait la honte prométhéenne ? C'est-à-dire que l'homme est capable de faire des objets techniques beaucoup plus performants que lui-même. Il est ridiculisé par les objets qu'il fabrique. D'où cette ambivalence. Il est fier de les avoir produits, des ordinateurs, des smartphones, des logiciels intelligents. Et en même temps, ces objets techniques lui mettent la pâtée dans toutes sortes de domaines.
Oui, je suis entièrement d'accord avec vous. Et d'ailleurs, cette idée de honte prométhéenne est liée à celle de blessure narcissique que l'on trouve chez Freud, notamment dans un livre extraordinaire et très clair, comme toujours chez Freud, qui est l'introduction à la psychanalyse, qui a dû paraître en 1917, je ne veux pas dire de bêtises, 1916 ou 1917, et Freud introduit ce concept de blessure narcissique, c'est-à-dire l'idée selon laquelle, dans les grandes périodes de progrès technologique, l'homme, l'individu vit les grandes périodes de progrès technologique comme des périodes de recul pour lui, parce que il a du mal à redéfinir sa fonction dans l'univers. Et donc, quand on apprend à l'homme que la Terre n'est pas plate, mais qu'elle est ronde, que l'univers n'est pas fini, mais qu'il est infini, que la Terre n'est pas le centre de l'univers, mais qu'elle est là en vertu de lois physiques qui restent à découvrir, évidemment, c'est tout son univers mental qui s'effondre. On parlait de Darwin il y a quelques instants. Freud cite cet exemple. Là encore, je schématise, mais quand Darwin a expliqué que l'homme ne venait pas de Dieu, mais du singe, il a mis 10 ans avant de publier L'Origine des espèces, parce qu'il se disait, mais j'ai raison, mais je ne peux pas publier ça, parce que le choc pour l'humanité sera trop violent. C'est une blessure narcissique. Et donc, pour revenir à votre remarque, je pense que l'intelligence artificielle hybridée à un robot, habillé de cellules de peau grâce au progrès de la biologie moléculaire, c'est-à-dire un humanoïde, mais qui est plus vigoureux que nous, qui est plus fort que nous, qui est plus intelligent que nous, je pense que c'est une sacrée blessure narcissique.
France Culture, la conversation scientifique, Étienne Klein.
Si je peux me permettre, il y a une petite différence entre la blessure narcissique telle que vous la définissez et la honte prométhéenne de Anders. D'ailleurs, je vais lire un extrait de son ouvrage. Il écrit ceci. « Si j'essaie d'approfondir cette honte prométhéenne, il me semble que son objet fondamental, c'est son origine. L'homme a honte d'être devenu plutôt que d'avoir été fabriqué. Il a honte de devoir son existence au processus aveugle, non calculé et ancestral de la procréation et de la naissance, à la différence des produits qui, eux, sont irréprochables parce qu'ils ont été calculés dans les moindres détails. » Donc l'homme se sent imparfait vis-à-vis de la technique qu'il est capable de mettre sur pied et de faire fonctionner.
Alors un transhumaniste radical ou un posthumaniste radical vous dirait que nous allons résoudre cette équation. Je ne veux pas parler pour lui, mais le directeur scientifique de Google, qui s'appelle Ray Kurzweil, vous dirait que de toute façon, comme nous allons vers une hybridation entre l'homme et la machine et que nous allons perfectionner l'homme par la machine, notamment en nous implantant dans le cerveau des capteurs qui nous permettront d'être plus intelligents, qui nous permettront de ressentir, y compris physiquement, les choses de façon beaucoup plus intense. Nous allons vers cette distinction, vers cet effacement, pardon, de la distinction entre l'homme et la machine. Le phénomène de honte prométhéenne, si je vous suis bien, pourrait être gommé, puisque l'homme deviendra en partie une machine, ou en tout cas, la distinction entre l'homme et la machine sera gommée.
Mais il n'en a peut-être pas envie. Et il y a une forme de naïveté dans les discours de Kurzweil que vous citez, par exemple, quand il promet l'immortalité, en oubliant de poser deux questions. La première, c'est si nous devenions immortels, comment pourrait-on s'en rendre compte? Comment de l'immortalité peut apparaître dans une espèce humaine? Il faudrait attendre très longtemps, parce que l'immortalité, c'est pas la très grande longévité, c'est l'immortalité, c'est le fait de ne pas mourir. Comment est-ce qu'on peut savoir qu'on est immortel quand on n'a jamais vu l'immortel? Ça, c'est la première question à laquelle il ne répond pas. Et la deuxième, c'est si on savait qu'on était immortel, comment le supporter? C'est-à-dire que on serait terré dans son lit en ayant peur de sortir, de peur d'avoir un accident qui nous priverait non seulement de la vie, ce qui est déjà pas mal, mais aussi de l'immortalité, ce qui est bien pire.
Mais je suis d'accord avec vous, Étienne, et je n'adhère pas à la philosophie post-humaniste. Mais là, je dois dire que la philosophie transhumaniste qui me dit « tu pourras vivre peut-être 30, 40, 50 ans de plus en étant plus intelligent, en ayant moins de maladies. Je sais bien, et on en revient au début de notre conversation, que quand on l'évoque, pas seulement en France d'ailleurs, mais en Europe, elle a un caractère très anxiogène, mais j'ai toujours un peu de mal à m'expliquer pourquoi. Si on me dit tu vas vivre 30 ans ou 40 ans de plus en bonne santé, je dois dire que ça me va très bien. D'ailleurs, comme vous le disent les philosophes transhumanistes, je crois que c'est Nick Bostrom, un excellent philosophe suédois, qui dit, au fond, ce que le transhumanisme vous propose, c'est une liberté en plus. Mais si vous voulez mourir, suicidez-vous, c'est une liberté qui vous reste.
Qu'est-ce que vous pensez des big data, Nicolas Bouzou?
Alors les big data...
Qui sont même très associés à ce projet d'hybridation entre le vivant et, oui. et l'inerte, entre l'artificiel et le naturel. Il faut des big data pour que ça avance, pour que ça fonctionne. Moi, je partirai d'une remarque, c'est que lorsqu'Einstein écrit en 1915... une nouvelle théorie de la gravitation, qui s'appelle la relativité générale, à l'époque, on ne sait rien sur l'univers. On ne sait pas qu'il y a d'autres galaxies, on ne sait pas que l'univers est en expansion, on ne sait pas d'où vient que les étoiles brillent, on ne connaît pas les forces nucléaires au sein des étoiles et ailleurs. Bref, on a très peu de données. Mais Einstein écrit une théorie qui, un siècle plus tard, en 2016, continue d'être la théorie qu'on utilise pour faire de la cosmologie scientifique.
Qu'est-ce que vous voulez me dire par là?
Ce que je veux dire, c'est que les données qu'on a recueillies avec des satellites, des télescopes pendant un siècle, n'ont cessé de confirmer les équations d'Einstein. Et la question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce qu'on pourrait faire le chemin inverse? C'est-à-dire, si on avait disposé des données, des signaux lumineux envoyés par tous les astres que nous connaissons aujourd'hui, est-ce qu'à partir des seules données, nous aurions pu réétablir les équations d'Einstein?
Ça, c'est à vous de me le dire. Mais
est-ce que les big data ne vont pas nous inciter à chercher des corrélations dans tous les sens, en arrêtant de théoriser?
Non, mais ça, je crois que vous avez raison. Alors, en même temps, on en revient à notre discussion de tout à l'heure. C'est-à-dire que ce que vous expliquent aujourd'hui les spécialistes et même les philosophes qui s'intéressent aux big data, c'est que nous entrons dans une épistémologie qui est l'épistémologie, en effet, de la corrélation. C'est-à-dire que nous allons avoir beaucoup de données, nous n'aurons même plus besoin de réfléchir, et l'intelligence artificielle nous permettra d'établir des corrélations, et c'est déjà le cas aujourd'hui. Et d'ailleurs, je parlais de blessures narcissiques tout à l'heure. Je vais vous donner une information qui intéressera, j'imagine, beaucoup de nos auditeurs, et qui pourrait même vous intéresser, Étienne, même si elle est absolument effrayante.
Mais je suis auditeur de cette émission.
Absolument. Nous avons aujourd'hui, enfin, certains spécialistes de l'intelligence artificielle me disent avoir identifié un algorithme qui permette de prédire le divorce ou la séparation avec deux ans d'anticipation à peu près, grâce à deux mots-clés recherchés sur les moteurs de recherche. Et donc je vais vous donner ces deux mots-clés, bien évidemment, ce qui permettra à nos auditeurs de savoir s'ils vont divorcer dans deux ans ou pas. Ces deux mots-clés, c'est d'une part, alors pour des hommes, vêtements, et d'autre part, voyage. Quand un homme fait des recherches sur des vêtements ou sur des voyages, cela signifie... En tout cas, cela semble signifier, parce que nous sommes bien dans les corrélations, justement, cela semble signifier qu'il va divorcer à l'horizon de deux ans. Donc c'est quelque chose qui est fascinant, qui est absolument effrayant. Alors pourquoi vêtements? Parce que quand un homme, en général, veut changer de garde-robe, c'est qu'il a une idée derrière la tête qui n'est pas simplement de plaire un peu plus à sa compagne ou à son compagnon. Et quand il décide de voyager d'un coup d'un seul, c'est éventuellement pour voyager avec quelqu'un d'autre que la personne avec
qui il partage sa vie. Mais vous voyez que là, on essaie de dire ce qui va être à partir qui a eu lieu.
Vous avez raison.
Et donc, on fait de l'induction.
Oui.
Ce qui est tout le contraire de la démarche scientifique. Oui. Et on a toujours tendance à lire les corrélations qu'on observe comme des causalités.
Eh bien, conservons les deux.
Oui, mais vous voyez bien, c'est pas parce qu'il y a des grenouilles après la pluie qu'on a le droit de dire qu'il a plu les grenouilles.
J'entends bien cette remarque, et nous avons les mêmes problèmes en économie. Ça n'est pas parce que le nombre de divorces augmente avec le nombre de chômeurs que le divorce crée le chômage.
Mais à chaque fois qu'on lit une corrélation quelque part, on la comprend comme une causalité.
Non, là, je suis pas d'accord avec vous. La corrélation peut nous mettre sur une voie. C'est ça l'idée de la corrélation. En tout cas, c'est la façon dont on pratique en économie. En économie, les techniques statistiques se sont beaucoup développées ces dernières années, et nous établissons beaucoup de corrélations, et la corrélation, bien évidemment, ne prouve rien, mais elle peut nous emmener vers une voie de recherche à laquelle nous n'avions pas pensé au préalable. De ce point de vue-là, ça me semble pas inutile.
Nicolas Bouzou, j'ai encore beaucoup de questions à discuter avec vous, mais c'est la fin de cette émission. Hélas, je recommande la lecture de votre livre « L'innovation sauvera le monde ». C'était la conversation scientifique par Étienne Klein, avec la collaboration de Cyril Baer, à la technique Julien Douminc, et à la réalisation, François Connac. tout de suite, tellement tout de suite que c'est presque comme si c'était déjà maintenant, vous retrouverez Antoine Guillot pour Plan Large, le nouveau rendez-vous cinéma de France Culture.